Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. L'émission de cette semaine vient en écho à la Journée internationale des droits des femmes qui se tenait le 8 mars. Vous entendrez tout d'abord une étoile montante du photojournalisme, Laurence G, qui depuis la Syrie nous racontera pourquoi il est important que des femmes couvrent les conflits et leurs conséquences. L'universitaire Denis Ruelland nous expliquera pour quelles raisons certaines journalistes font le choix de se consacrer aux reportages de guerre, puis une rédactrice en chef du New York Times, Jessica Bennett, nous parlera de son rôle original au sein du grand quotidien américain. Elle est responsable éditoriale de l'égalité des genres. Mais tout de suite, direction la Syrie.
RFI. Donc je m'appelle Laurence Gey, je suis photojournaliste depuis environ 5 ans et en ce moment je me trouve en Syrie, donc à Kamishli, dans le Rojava, donc le Kurdistan syrien. Je suis venue ici pour en commande pour Le Monde pour couvrir plein d'histoires, mais notamment la fin du califat à Barbouz, qui est la dernière poche encore tenue par Daesh.
Alors, vous êtes une photojournaliste de 34 ans et votre nom est déjà associé au terrain difficile. Pourquoi est-il important que des femmes couvrent les conflits et leurs conséquences ?
Alors, c'est pas une question que je m'étais posée, le fait d'être une femme, d'aller dans ce genre de terrain. C'est plutôt une curiosité personnelle qui m'a poussée à me rendre en Syrie il y a 4 ans, 5 ans. Et c'est important que des femmes, enfin que tout le monde y aille par ailleurs, des hommes et des femmes. L'avantage d'être une femme, si je peux me permettre, c'est qu'on a accès aux femmes dans certains pays, notamment dans les pays musulmans, où on peut peut-être plus facilement s'approcher des femmes, donc d'avoir le point de vue de la moitié de l'humanité, que parfois qui n'est pas possible pour les hommes d'avoir. C'est pas toujours possible pour les hommes d'accéder aux femmes. Si vous voulez, le fait d'être une femme m'aide à accéder à d'autres femmes qui parfois sont plus réticentes à parler aux hommes.
Et donc vous estimez que c'est une chance d'être une femme sur le terrain dans certaines situations?
C'est un avantage. Je dirais que il y a plusieurs avantages à être une femme. Le fait que parfois on se méfie moins de nous. Donc l'autre, c'est effectivement l'accès aux femmes dans certains pays. Et je pense que voilà, enfin ça c'est vraiment les deux avantages principaux, qu'on se méfie moins de nous. C'est vrai que parfois on peut avoir des accès et je trouve que on n'est pas considéré comme des femmes dans ces pays-là. Hein. On est considéré comme un troisième sexe, je dirais. C'est toujours étonnant pour les locaux de par exemple d'Irak ou de Syrie de voir des femmes qui couvrent des terrains de guerre. Donc parfois le désavantage c'est qu'ils veulent peut-être plus nous protéger sur le front, mais ça présente aussi beaucoup d'avantages.
Et les process de sécurité justement que vous imposez sont-ils particuliers du fait que vous soyez une femme ou pas?
Déjà bon forcément, mais ça je pense que c'est tout le monde hein, sur des terrains comme ces genres de conflits. Au niveau des vêtements, on s'habille plutôt d'une manière assez neutre, assez masculine. À titre personnel, j'enlève toutes les attributs de ma féminité que pourtant je suis quelqu'un de très féminine à Paris. Je m'habille mal quoi. Ici je m'habille vraiment d'une façon très neutre, rien qui puisse montrer je suis dans la séduction ou autre comportement. Gros pull, pantalon, chaussures de marche. C'est plutôt dans les vêtements quoi. Je vais pas m'amuser à mettre un petit haut que j'aime bien, un peu décolleté. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Mais ça, c'est une question de pratique et une question de sécu. C'est pas forcément qu'une question de par rapport au fait d'être une femme. C'est une question de ici, les femmes se couvrent. Bon, bah, je m'adapte, quoi. J'essaie de me couvrir au maximum pour pas attirer l'œil et pour pas attirer l'attention.
Et dans votre relation avec vos employeurs, avec les rédactions qui vous font travailler, sentez-vous parfois des réticences à vous envoyer sur le terrain en raison du simple fait que vous soyez une femme?
Eh ben, je suis chanceuse parce que ça m'est, je pense, jamais arrivé. C'est plutôt peut-être plutôt des confrères, mais pas mes chefs. J'ai la chance de travailler avec des rédactions qui m'envoient de temps en temps, qui font confiance comme Le Monde le fait en ce moment même. C'est le problème au journal, ne s'est jamais posé le fait que je sois une femme. Je suis sûre de ça, quoi. Je pense que ce n'est pas du tout une question qui s'est posée. C'est une femme, elle est plus en danger ou non. pas là où je travaille, pas dans la rédaction. Mais ici, j'ai pas eu cette problématique dans les pays en guerre. Après, bon, moi, je sais des pays où je me suis rendue. Enfin, j'ai commencé la photo par ces pays-là. Donc là, je me suis rendue toute seule ici en freelance. J'allais pas démarcher les rédactions n'ayant jamais fait de photo avant. Je n'étais connue de personne. Je préférais d'abord faire mes armes, voir si c'était un métier pour moi. Et après, du coup, les rédactions ont vu que je connaissais ces terrains-là. Du coup, c'est pour ça aussi qu'ils m'ont mis en commande, en fait. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. C'est pas, si j'avais été à Paris, par exemple, jamais été en Syrie, je pense pas que le monde m'aurait envoyé. Vous voyez, ce qui est totalement compréhensible. Parce que Paris Match, mais on m'envoie quelque part en Irak, si je n'ai jamais mis un pied en Irak. Parce qu'en fait, je connais les gens, ça rassure les rédactions. Les rédactions, je pense que c'est pas une question de genre, hein. C'est vraiment une question de connaissance du terrain. Ce sont des rédactions qui savent que je connais ces terrains-là, qui ont confiance visiblement, et que je sois une femme ou un homme, je pense pas que ça change grand-chose avec les personnes avec qui je collabore.
Comment se passe la relation avec vos consoeurs en terrain de guerre ? Y a-t-il une sororité, une entraide ou pas forcément ?
Moi, je trouve que mais avec tout le monde, hein. Là, vous voyez, je vous donne un exemple à Barouz. Je croise tout le monde, plein de gens que je connais, que j'ai connus dans d'autres conflits et tout. C'est très agréable, femmes et hommes. J'adore croiser mes copines sur le terrain, quoi. C'est clair. Véronique de Vigry, on en avait bossé ensemble. Il y a une vraie sororité, c'est clair. Il y a une vraie aide entre. Enfin, je trouve qu'il y a une. Enfin, hommes et femmes, hein, en vrai. Hein. Mais concernant les femmes, est-ce que j'ai des exemples à vous donner ? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que. Il y a une vraie entente, quoi. Enfin, j'ai plein de copines, moi, journalistes, soit photographes, rédactrices ou télé. Je suis ravie de les voir sur le terrain. Il y a une entraide, hein, avec tout le monde, hein, je pense.
L'universitaire Denis Ruelland, que nous avons interviewé, nous confie avoir observé que sur les terrains de guerre, il y avait de plus en plus parité, mixité entre hommes et femmes, notamment dans la jeune génération. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous aussi sur les terrains ?
Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes femmes, effectivement, en télé, en rédactrice, beaucoup, et en radio. Mais en photo, je trouve qu'on n'est pas assez nombreuses. Je veux dire, moi, je peux vous les citer sur le doigt de la main, quoi. Vous voyez ? Là, je suis la seule femme.
Une dernière question pour terminer. Que conseilleriez-vous à une jeune journaliste qui aurait envie de marcher sur vos traces ?
Ouais, traces, c'est encore beaucoup de traces. Hein. Je suis quand même au début de ma carrière. Mais écoutez, moi, je pense que le conseil que je donne pour le photojournalisme, c'est la persévérance, évidemment, et la patience. Et surtout, sur le terrain, en fait, c'est... Il faut être journaliste avant d'être photographe. Pour moi, c'est ça la clé. Enfin, la clé. Moi, je suis d'abord journaliste avant d'être photographe. C'est le journaliste qui m'a amené à la photo. Et je fais de la photo pour plein de raisons. J'aime beaucoup la photo, tout ça. Mais c'est pas mon... Je ne suis pas allée dans ce terrain-là parce que j'étais photographe. J'ai appris la photo. C'est le média qui me plaît le plus aujourd'hui. Ça peut changer. Aujourd'hui, c'est ça. J'adore la photo. Mais je pense que la clé dans ce genre de terrain, c'est d'être d'abord journaliste, d'avoir les contacts, de savoir créer des relations, établir des liens de confiance, de conserver les relations. Et la photo, c'est vraiment le petit plus presque. Mais ce métier, c'est d'abord du relationnel, du contact, de la curiosité, de l'enquête, ça c'est important, même si ça ne se photographie pas. Et c'est ça pour moi la clé de ce métier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je travaille. Presque la photo, c'est le point positif, c'est le plus, c'est la cerise sur le gâteau.
Écoutez, merci beaucoup, Laurence G.
Merci, au revoir, à bientôt.
Vous pouvez retrouver le travail de Laurence G. en ce moment même dans le journal Le Monde. Notez aussi qu'elle est très active sur Instagram et sur Twitter. Son site, laurenceg.com. Signalons aussi la parution du nouvel album de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Il contient 100 photos d'une photojournaliste chevronnée, Véronique de Vigry, consoeur de Laurence G. Mais qu'est-ce qui conduit une journaliste à choisir la guerre comme terrain de travail ? C'est une question à laquelle a tenté de répondre notre prochain invité.
L'atelier des médias.
Denis Ruelland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université, directeur adjoint du CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Et vous avez publié il y a peu un ouvrage intitulé « Reporters de guerre, goûts et coups aux presses des mines. Précision pour nos auditeurs, vous avez orthographié reporter, E accent grave, R-E-S. Alors, vous êtes déjà spécialisé depuis longtemps dans la construction de l'identité professionnelle des journalistes et de leur trajectoire, mais vous avez décidé de vous lancer dans une étude genrée sur la profession, en vous intéressant spécifiquement aux femmes. Pourquoi avoir décidé de mener ce travail ?
Il me semble que toutes les études qui avaient été produites, et qui étaient d'ailleurs assez rarement scientifiques, hein, les études qui ou les ouvrages qui paraissaient sur les reporters de guerre focalisaient énormément sur les hommes, les femmes apparaissaient extrêmement peu, et je pensais nécessaire de rétablir un petit peu l'équilibre en consacrant prioritairement cet ouvrage, mon attention aux femmes, mais les hommes apparaissent aussi dans mon ouvrage. Puis l'autre raison, c'est que je m'interrogeais, comme beaucoup de chercheurs aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'essayistes et beaucoup de journalistes, sur la prégnance du genre, c'est-à-dire comment à la fois les identités socialement construites sur des différences perçues entre les sexes, et bien comment ces identités construites jouaient dans le travail journalistique, comment elles intervenaient dans le travail journalistique, à la fois en termes d'assignation, c'est-à-dire d'obligation pour les individus à se conformer à ces rôles sociaux, mais aussi en termes de compétences, de ressources.
Denis Ruelland, avec le concours de vos étudiants, vous avez mené des dizaines d'entretiens avec des femmes journalistes, mais aussi leurs proches. Et il y a un terme que vous utilisez, justement, et qu'on voit en sous-titre de votre ouvrage, c'est le goût pour le reportage de guerre. Pourquoi le choix de ce terme ?
Alors, j'ai souhaité essayer d'expliquer que, en provoquant le lecteur à partir de ce mot, qu'il ne s'agissait pas d'un goût pour la violence ou qu'il ne s'agissait pas d'un goût pour des situations qui permettent d'observer des gens qui souffrent. Non, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le goût au sens sociologique, c'est un appui que l'individu prend sur différents contextes, sur différentes organisations, sur différents moyens techniques pour développer un rapport au monde, pour développer une façon d'être en relation avec le monde. Vu comme cela, en fait, le reportage de guerre, c'est une façon pour des personnes généralement jeunes, aujourd'hui les gens se lancent tôt dans cette activité-là, et d'ailleurs ne vont pas la mener très longtemps parce que c'est très fatigant. C'est une façon finalement de se mettre en rapport avec le monde et à découvrir sans doute un monde très très plus facile en quelque sorte à lire de leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils voient un monde radicalisé, ils voient du bien et du mal, ils voient des gens pour et des gens contre, et c'est ce goût-là qui m'a intéressé, que j'ai découvert de façon très très large chez les hommes et chez les femmes, qui n'est pas un goût pour la violence, mais un goût pour un monde en quelque sorte qui est à la fois extrêmement confus, les circonstances de guerre sont toujours extrêmement confuses, mais relativement simples à comprendre quand on est intégré dans ce monde-là. On est avec des gens qui sont soit des victimes, soit des agresseurs, et de ce point de vue-là, les choses sont relativement simples.
Donc on constate qu'il y a une mixisation de la profession, y compris sur les terrains difficiles. Y a-t-il une parité maintenant des journalistes hommes et femmes sur les terrains de guerre ?
J'ai abouti à force d'interroger les journalistes, de me renseigner sur les effectifs des rédactions, à l'idée que dans la plus jeune génération, c'est-à-dire des gens qui ont entre 25 et 35 ans, la parité est établie. C'est-à-dire que de façon égale à peu près en nombre, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont actifs, mais ce que j'observe, c'est que assez rapidement, en fait, l'inégalité se reconstruit pour des raisons qui sont liées à la gestion des familles. On observe dans le journalisme d'une manière générale et dans le journalisme de guerre aussi une prégnance des assignations qui font que les femmes sont assez rapidement découragées de continuer leur activité professionnelle dès lors que elles ont des enfants, ce qui freine moins les jeunes hommes qui parviennent plus, s'ils le souhaitent, à maintenir une activité de ce type-là, de reportage de guerre, reportage occasionnel, ils ne font pas ça à 100%, mais ils le font une partie du temps, et leur vie familiale. De ce point de vue-là, la conjugalité et la maternité constituent un frein pour les femmes qui, très souvent se battent contre cette contrainte-là. Certaines revendiquent très clairement la possibilité et la nécessité de mener les différentes carrières personnelles et professionnelles de front, mais on sent le poids social qu'elles ont sur les épaules, l'entourage, les proches, les collègues qui s'étonnent à leur place du fait qu'elles continuent une activité professionnelle de ce type.
Et vous notez également, et certaines femmes vous rapportent, que parfois en situation de reportage, leur genre passait au second plan, laissant la seule casquette journalistique dépassée.
D'une certaine manière, le reportage de guerre le permet. C'est ça qui est très étonnant, c'est que le reportage de guerre introduit les individus dans un monde où les règles sont en partie suspendues, et notamment parfois les règles de genre. Quand on est avec un groupe de combattants et de combattants, d'une certaine manière, le genre n'a plus d'importance face à la difficulté, face à la mort. Et ce qui devient important, c'est les individus, leur personnalité, leur courage, leur empathie vis-à-vis les uns des autres, qu'ils soient hommes ou femmes, n'est pas important. Et ça, j'ai eu plusieurs témoignages qui disaient ça. À un moment donné, le genre disparaît.
Et pour conclure, essayons d'imaginer des tendances pour les années à venir. Que doit-on voir ? Va-t-on vers une féminisation accrue, y compris sur les terrains de guerre ?
J'aurais beaucoup de mal à me prononcer parce que, en fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est que les reporters, que la population que moi j'ai observée, qui sont des reporters principalement français, mais aussi un peu européens et américains, c'est une population qui disparaît des terrains de guerre de plus en plus, au profit d'autres populations de journalistes, qui sont des journalistes locaux, irakiens en Irak, syriens en Syrie, yéménites au Yémen, etc. Et qui du coup ont leurs caractéristiques propres, et une de leurs caractéristiques ça peut être la très faible proportion de femmes. Alors pourquoi il y a cette substitution qui se vérifie d'ailleurs très clairement dans les statistiques de mortalité, hein, la mortalité aujourd'hui c'est pratiquement 95% de journalistes locaux en quelque sorte, de nationalité du pays. Eh bien, c'est tout simplement parce que les rédactions des médias font appel à la compétence de gens qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien les réseaux, qui parlent très bien plusieurs langues, qui ont des moyens techniques qui sont tout à fait suffisants, et donc préfèrent travailler avec eux qu'envoyer de leurs propres reporters qui coûtent cher, dont la prise en compte des risques de mort, d'enlèvement, etc. Qu'elle n'est pas plus élevée, mais en tout cas, elle coûte plus cher parce qu'il faut assurer les gens, etc. Donc, les rédactions envoient moins leurs reporters et s'appuient plus sur des reporters locaux. Du coup, il faudrait regarder comment ces populations-là, elles, évoluent. Et ça, je ne suis pas du tout certain qu'effectivement, on puisse constater à court terme la même évolution qu'on a observée dans les populations de journalistes européennes et américaines.
Merci, Denis Ruelan.
Merci.
Et je rappelle que votre livre « Reporter de guerre, goûts et coups » est paru aux éditions Presse des Mines. Précisons aussi qu'il fait partie des 4 sélectionnés pour le prix Recherche 2019 des Assises du journalisme qui se tiennent la semaine prochaine à Tours et où l'équipe de l'Atelier des médias sera présente. À bientôt.
À bientôt.
Avant de poursuivre, deux informations en bref liées à notre thème de la semaine, les femmes dans les médias. On vous parlait il y a 2 semaines d'Entendu à la rédac, une enquête lancée en ligne par plusieurs collectifs pour mesurer la réalité du sexisme et du harcèlement dans les rédactions et les écoles de journalisme en France. 1500 journalistes et 270 étudiantes et étudiants y ont participé et les témoignages révèlent que le secteur des médias est loin, très loin d'être épargné par ces fléaux. Les témoignages sont édifiants et l'ensemble des résultats sont accessibles sur entendualarédac.fr. Le site inaglobal.fr a mené quant à lui une étude poussée sur le taux d'expression des femmes sur les télévisions et radios françaises. À la télévision, la moyenne d'intervenantes est de 35%, une des meilleures élèves est France 24 avec 46% de temps d'antenne occupé par des femmes. À la radio, c'est RFI qui est en tête avec 33,2%. C'est bien d'être en tête, mais on peut encore évidemment mieux faire. Pour donner davantage de place aux femmes, certains médias ont pris les devants. C'est le cas du New York Times qui dispose maintenant d'une gender editor. Comprenez, une spécialiste des questions de genre qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans les articles du média américain. Elle s'appelle Jessica Bennett et notre journaliste Camille Sarrazin l'a rencontrée cette semaine à Paris.
RFI.
My name is Jessica Bennett. I am the gender editor at the New York Times.
J'ai l'habitude de dire qu'une gender editor, c'est comme n'importe quelle rédactrice en chef, mais plus en colère. Beaucoup de gens ne comprennent pas exactement ce que je fais. Mais je me concentre sur les questions liées aux femmes et au genre, et sur comment, en tant qu'institution, on peut mieux traiter ces questions, mais aussi comment attirer plus de femmes vers notre média. Nous savons qu'au New York Times, il y a traditionnellement plus de lecteurs que de lectrices qui s'identifient en ligne, qui partagent des articles et postent des commentaires. Et nous voulons en finir avec cet écart. Donc mon travail quotidien, c'est de réduire cet écart. Nous savons aussi, et ce n'est pas seulement au New York Times, que les articles avec des femmes au centre de l'histoire, comme sujet de l'article, ont tendance à attirer plus de lectrices.
Donc, est-ce que vous vous concentrez sur la parité ou aussi sur la manière dont les femmes sont présentées ?
It's both, you know.
Vous savez, la base de mon travail, c'est d'abord de penser au journalisme. Est-ce qu'on pourrait mieux couvrir certains sujets ? Est-ce qu'on est en train de rater quelque chose ? On a lancé un projet l'année dernière qui s'appelle Overlooked, négligé en français. On a écrit des nécrologies pour les femmes qui n'en ont jamais eu mais le méritaient. Parce que historiquement, au New York Times, les femmes ne représentaient que 20% des nécrologies et on voulait corriger ça. Et ensuite, bien sûr, une partie de mon travail est de remarquer si dans un article, aucune femme n'est citée. On ne comptabilise pas, d'une manière ou d'une autre, du moins pas encore. Mais c'est forcément quelque chose que j'ai toujours en tête.
Est-ce que tout le monde comprend votre travail au New York Times ou est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés et des incompréhensions de la part de certains collègues ?
That's a good question. I think that most of the...
Je pense qu'une grande partie de la confusion autour de ce que je fais tient au fait que c'est un nouveau poste au sein d'une grande institution. Ce n'est pas vraiment lié aux questions de genre. La plupart des gens travaillent sur une seule rubrique, et moi, je dois travailler entre toutes ces rubriques. L'idée est que chaque service devrait réfléchir aux questions de genre. Donc je suis un peu partout et je pense que certaines personnes se demandent juste « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et des fois, moi aussi je me le demande, mais j'adore ce boulot, j'adore faire quelque chose de différent chaque jour.
Oui, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une section en plus dans le journal, mais ça traverse vraiment toutes les rubriques.
Oui, on a beaucoup réfléchi à ça et nous ne voulions surtout pas mettre ce contenu dans une section à part qui serait étiquetée « femme ». Dans les années 50, 60 et 70, le New York Times avait une rubrique qui s'appelait « Les pages des femmes ». Ce qui voulait dire que tous les sujets qui étaient pensés pour les femmes étaient dans cette seule et unique rubrique du journal. En réalité, toutes les pages du journal sont aussi pour les femmes.
L'impact du travail de Jessica Bennett est encore difficile à évaluer, mais on ne peut que saluer cette initiative du New York Times. Merci à Camille Sarrazin qui a mené cet entretien. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Sur son blog Jifa, la Togolaise installée aux États-Unis, Corinne Danclou, a raconté dans un billet son expérience de femme active, tiraillée entre les exigences professionnelles et les responsabilités familiales. On l'écoute.
Pour les femmes qui travaillent, la grande difficulté reste de concilier vie familiale et vie professionnelle. Il y a quelques années, j'occupais un poste assez exigeant. De nombreuses femmes me demandaient comment j'arrivais à jongler entre le boulot et la maison. La réponse était sans équivoque, je n'y arrivais pas. Et je me demandais souvent, mais combien de femmes arrivent à tout concilier ? Le problème, c'est que même dans les couples où les hommes s'impliquent pour être plus présents, les principales responsabilités pour gérer le foyer incombent toujours aux femmes. Résultat, les femmes ont des doubles journées, stress au boulot et stress à la maison. Et bien sûr, au bout de quelques années, la facture est lourde en termes de fatigue et d'épuisement. En réalité, de nombreux hommes ne conçoivent pas de devoir s'impliquer plus que ça dans les tâches domestiques quotidiennes. Ils consentent à aider leur conjointe uniquement lorsque celle-ci est à bout de force. Pourtant, aujourd'hui, les femmes travaillent autant que les hommes. Alors pourquoi en est-on encore là ? Un partage équitable des tâches ménagères ne pourra se faire qu'en rejetant les anciens stéréotypes. Cela signifie que de leur côté, les femmes doivent penser à réadapter la façon d'appréhender leur rôle, dans le couple et dans la famille. Il faudrait penser aussi à éduquer nos enfants autrement, sortir garçons et filles des stéréotypes sexués. Combien de petits garçons aident leur mère, je devrais dire leur père, à faire la lessive, à étendre le linge, à mettre la table ou à la débarrasser ? Combien de petites filles prennent des risques ou sont à l'initiative de décisions importantes pour les autres ? Leur apprend-on le bricolage ou la mécanique ? Il ne s'agit pas de voter des lois, mais bien d'opérer un véritable changement des mentalités. Alors le 8 mars, comme toute l'année, disons stop aux stéréotypes.
L'émancipation des femmes passe par l'éducation des hommes. C'est un billet de Corinne Danclou à retrouver sur son blog Jifa. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour réécouter tous les mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche. À la réalisation, Simon de Creuse, au micro, Steven Jambeau. La semaine prochaine, nous serons dans la ville française de Tours pour la 12e édition des Assises internationales du journalisme, où nous irons à la rencontre de ceux qui participent à cette grand-messe annuelle des médias. D'ici là, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.